L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Passion intérieure. Scénario original de Julien Jean-Pierre. Mise en scène, production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Entrez, monsieur. Madame. Merde, ma mère est avec lui. Veuillez me suivre. Il voit apparaître ses parents. Il est très ému et apeure. Se lève. Ils vont à lui.
Bonjour maman, bonjour papa. La mère soupire et dit, tu nous en fais faire du souci, toi, tu sais. Le père ne dit rien. Le commissaire dit, il était content d'être pris. Venez, nous allons à mon bureau. Ils vont au bureau du commissaire. Le commissaire leur dit, sa première fugue, il n'a rien fait. La mère lui dit, tout ce temps dehors. Oui, et je me demande comment il n'a pas pu être pris avant. Bien, tout est bien qui finit bien. Nous pouvons passer l'éponge de sa première fugue, mais attention à la prochaine fois. Attention, là, ce sera son juge, le juge qui décidera de son sort. Tu as bien compris? Le pauvre Pierre dit, oui. Le commissaire demande, vous savez pourquoi il a fugué? Le père lui dit, la peur de passer son CRP. Oui, il le passe dans une semaine. Le commissaire lui dit, bon, eh bien, vous pouvez partir. Et il les accompagne. Pauvre Pierre. Pierre suit ses parents avec son cartable. Personne ne sait pourquoi il a fugué. C'est mieux ainsi, parce qu'il aurait eu trop honte. Son amitié, c'est un secret. Son rêve de faire du cinéma, c'est son secret. Dehors, il fait nuit. La mère demande, ça va nous coûter cher tout ça, tu te rends compte? Un voyage à Paris. Le père dit, qu'est-ce que tu connais comme coin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pierre lui dit, je peux vous montrer les Champs-Élysées? Alors on y va. Mais on y va comment? Le métro. Et ils suivent Pierre. La mère fait la gueule. Le père semble content d'être là. Elle demande, mon Dieu, c'est long, c'est loin? Non, c'est pas loin. Dans le métro, elle regarde sans rien dire. Pierre leur dit que c'est très beau Paris. Juste au moment où j'écris ça, c'est étrange. L'odeur particulière du métro me revient. Et c'est pour moi l'odeur de Paris. L'odeur amère, avec un rien de piquant. Une fois sorti du métro, place de l'Étoile, il lui dit, voilà. La mère regarde, sans regarder, furieuse. Le père sent content d'être là, et demande, tu connais un restaurant?
Non.
Et comment faisais-tu pour manger? comme ça, elle ose les épaules et dit « Vous cherchez un endroit pas trop cher ?» Il marche dans les rues. Elle voit un restaurant genre libre-service. Ils y rentrent. S'assoivent et commandent un repas. Steak frites. La viande est dégoûtante, nerveuse. La mère dit « C'est un fait et c'est cher !» Pierre se dit que c'est la première fois qu'il mange au restaurant. Une fois qu'ils aient fini, la mère dit « Bon, eh bien, on va rentrer à Lyon. » Le père lui dit « On ne couche pas à Paris ?» Elle lui dit « Non, c'est trop cher !» et sort du restaurant. Elle demande comment on fait pour aller à la gare de Lyon. Elle demande à un passant qui leur indique un car. Ils ont pris le car. Pierre ne dit rien. Il se dit que tout va rentrer en ordre, comme si rien n'était. Il a fait tout ça pour rien. Gare de Lyon. Après avoir pris les tickets, qu'est-ce que c'est cher? Tu te rends compte ce que ça nous coûte, tes bêtises? Pierre ne dit rien. Ils entrent dans le wagon de deuxième classe. Compartiment. Pierre se sent tout drôle. Ses parents sont ainsi l'un face de l'autre. Le train se met en route. Pierre se dit, avec tristesse, que Paris c'est fini. Adieu ses rêves. Il ferme les yeux, il est épuisé. La mère dit, il ne nous a même pas dit pourquoi il était parti. Le trajet est long. Des fois, il se réveille par intermittence. Il aimerait que le train n'arrivât pas à Paris, à Lyon. Un accident. Et que l'on meure tous. Lui s'en fiche de mourir. Malheureusement, le train arrive gare de Perrache. Pierre n'y croit pas. Retournez à Lyon. Lyon. Il fait encore nuit. La mère se sent mieux. Elle est chez elle. Elle est dans sa ville. Une fois sortie de la gare, elle dit « Allons, viens, entrons !» Pierre est triste de retrouver cette ville. Il a l'impression que rien ne s'est passé. Quelle tristesse! Rien n'a changé. Ils prennent le car. La mère semble furieuse. Le père ne dit rien. Pierre ne veut pas penser. C'est trop triste, trop triste. Dans le car, il voit défiler la ville. Non, rien n'a changé, rien n'a changé. La rue Berthelot est la même. Enfin, ils arrivent devant l'immeuble. Ils entrent dans l'allée. Pierre a l'impression que l'ancienne vie le reprend. Il va être prisonnier. On l'a repris. L'allée est la même. L'appartement aussi. La mère lui dit, va te coucher et ne fais pas de bruit. Tu ne vas pas au travail ce matin. Tu iras demain matin. Demain matin, oui, au travail. Oui, il faut qu'il aille au travail de suite. Après ce qui s'est passé, ça lui paraît impossible. Horrible de retourner au travail et que tout recommence comme si tout rien s'était passé. Il va à sa chambre. Et se déshabille pour se coucher. Le décor, l'odeur, rien n'a changé, rien n'a changé. Mais lui a changé, il est allé à Paris, il a quitté sa famille, il a fait des choses seul. Cela lui prouve qu'il est moins bête qu'on veuille lui faire croire. Il se couche, cafardeux. Ce n'est pas possible que je sois ici, ici, comme si rien n'était, dans cette vie qu'il a reprise, dans ce décor qu'il n'aime pas. Il aurait aimé mourir à Paris. Comme ça, il aurait été débarrassé de cette vie. Oui, de cette vie. Mourir, mourir, puisque c'est la seule façon de sortir de cette vie. Il s'endort épuisé, en se disant que si Dieu pouvait faire en sorte qu'il ne se réveille pas, sommeil noir, épuisant, son retour, trop d'émotions et de peur. Il se réveille à cause de petits bruits que l'on fait. La chambre baigne de lumière, il n'ose pas se lever. Il se sent en prison maintenant. Et on doit lui dire, on va lui dire ce qu'il doit faire. Oh, mourir, mourir. Pourquoi n'a-t-il pas droit d'être heureux comme tout le monde? Pourquoi faut-il qu'il vive comme on lui dit de vivre? Pourquoi le traite-t-on comme un débile? La porte s'ouvre. C'est sa mère en blouse grise. Elle dit: tu es réveillé? Lève-toi. Il se lève. Va à la salle de bain. Tu as acheté une chemise. Elle est trop grande pour toi. Remets tes vêtements de tous les jours. Il ne faut pas salir ton costume. Tu as eu de la chance de ne pas l'avoir sali. Allez, va te raser. Et Pierre va à la salle de bain. La salle de bain qui est plutôt une salle d'eau. Salle d'eau. Elle lui paraît lugubre et minuscule. Il y a du linge qui étend sur un étendage dans le bac à douche. Il commence à se raser. Sa mère lui crie: dépêche-toi, il est tard. Pierre se dit, la gorge serrée, voilà, ça continue. Même pour elle, rien n'a changé. Elle ne voit pas que je suis malheureux. Elle n'a pas vu que j'ai été violé à 6 ans. Elle n'a même pas vu que j'étais malade. Non. Elle ne veut pas voir les choses qui pourraient déranger son ordonnance. Et puis, elle fait son devoir, c'est-à-dire que tout est propre. Oui, tout est propre. Sur la salle de bain, gêné. Va à la chambre. Pour s'habiller. Retrouve ses vêtements qu'il déteste. Pantalon gris en toile. Blouson bleu en toile aussi. Il a envie de pleurer. Va prendre ton petit déjeuner. Et va à la cuisine. Son bol est prêt. Il prend son petit déjeuner en se disant que celui des policiers était meilleur. Après avoir pris son petit déjeuner, il va laver son bol à l'évier. Fais attention à ne pas faire de gouttes. Puis, lorsqu'il a fini, gêné, il va s'asseoir à table. Il entend sa mère qui fait le ménage, se dit comme si c'est comme s'il n'était pas parti. Elle apparaît à la cuisine et lui dit: tu es content d'être parti comme ça? Il n'y a pas pensé à nous, aux soucis qu'on se faisait, lui se dit. Tu ne faisais pas attention à ma souffrance, vieille de 11 ans. Il est penaud devant elle et lui dit: tu ne dis rien, pourquoi es-tu parti? Il ne dit rien. Que dire? Il aurait tout honte de dire qu'il est parti pour voir un ami qu'il ne connaît pas et qu'il veut faire des films. Il ne comprendrait pas, le prendrait pour un fou. On ne part pas pour ça, faire des films, c'est pas un métier, mais un ami. Pourquoi faire? Il y a la famille. Et puis elle est jalouse. Lorsque l'on monte de l'affection en dehors de la famille. Oui, elle est jalouse. Alors, tu ne dis rien? Il baisse la tête. Tu ne nous aimes pas. Quelle honte! C'est les ponches qui ont trouvé tes vêtements dans la cave. Et on a cru qu'il était arrivé quelque chose. La police est venue. Oui, la police est venue. Chez nous, des policiers. Je leur disais de parler bas. Pour qu'on n'entende pas. Tu ne dis rien. Tu as pris l'argent. Hein? C'est toi qui as pris l'argent. Ça aussi, tu n'y penses pas. Je sais pourquoi tu es parti. Pierre devient tout rouge. C'est elle quelque chose? Pourtant, elle n'a jamais parlé à personne. Elle dit: c'est parce que tu es. Tu ne veux pas travailler. Tu es feignant. Mais demain, tu y retourneras. Il est tout rouge. Elle lui dit: ne fais pas de soucis. J'ai dit que tu as été malade. Personne ne le sait. Et puis, il faut bien que tu travailles. Ça nous a coûté cher, tout ça. Elle le laisse seul. Il a envie de lui crier que ce n'est pas ce qu'elle croit. Qu'il est parti pour autre chose. Mais n'ose pas. Et puis, elle l'a toujours vu comme un feignant idiot. Ça ne va pas changer. À midi, le père revient. Il demande: alors? Elle lui dit: rien, il ne dit rien. C'est un feignant, voilà tout. Il ne nous aime pas. Le père dit: je t'ai toujours dit qu'il faut s'en méfier. Il n'est pas franc. La mère dit: et dire qu'on ne va plus pouvoir lui faire confiance. On a un fils chez nous, on ne peut pas lui faire confiance. Quelle honte! Mon Dieu, quelle honte! Pierre aimerait mourir. Et se dit qu'avant, elle ne faisait pas, elle lui faisait pas confiance. La preuve, elle le l'avait. Maintenant, ce sera encore pire. Parce qu'il va se retrouver en prison. Comme en prison. Oui, comme en prison. Elle lui dit: tu sais que tu es sous notre garde. Pendant le repas, toujours le même depuis des années, beefsteak haché à la sauce tomate, salade, plat de pommes de terre, flan, le père dit, c'est toi qui avais pris le gros billet?
Pierre lui répond, oui.
Ta mère m'a engueulé parce qu'elle a cru que c'était moi.
Pierre ne dit rien. Dans l'après-midi, sa mère lui dit d'aller chez le coiffeur qui est de l'autre côté de la rue, juste en face d'où ils habitent. Vieux coiffeur d'homme à l'ancienne que ça se faisait. Le coiffeur avait un fils, un beau garçon rouquin. Pierre l'a connu. Le petit est mort à l'âge de 7 ans d'une tumeur au cerveau. Il y a un jeune qui se fait couper les cheveux avant Pierre. Le jeune parle avec le coiffeur. Lui est pour les yéyés et Johnny. Le coiffeur, c'est Aznavour qui va passer dans l'émission Le palmarès de la chanson ce soir. On est mercredi. Le coiffeur dit,
Aznavour, lui, sait chanter. C'est pas comme ton Johnny.
Puis, Pierre sort du coiffeur. Il voit que sa mère est à la fenêtre et surveille ses allées et venues. Il n'a plus le droit de sortir ni d'avoir de l'argent. Il se dit, en entrant dans l'allée, que de toute façon, il n'avait pas le droit d'aller ailleurs qu'à son travail, et pour ce qui était de l'argent, il n'en a jamais eu. Le soir, avec la famille, il regarde le palmarès de la chanson. Il n'aime pas, mais il n'y a qu'une chaîne de télévision, et il faut regarder la télévision. Avant d'aller se coucher, sa mère lui dit, « Demain, tu vas au travail. Attention, on est responsable de toi. » Le lendemain matin, comme d'habitude, il va à son travail. Il se lève pour aller à son travail. Il va à la salle d'eau. Prend son petit déjeuner. Il ne croit pas que tout va recommencer comme avant. Ce n'est pas possible. Avant qu'il ne quitte l'appartement, il entend sa mère lui dire, fais attention, tu vas bien à ton travail. Tu ne lui dis rien ? Son père dit.
C'est une tête de cochon !
Et il sort. Dehors, il fait encore un peu nuit. Comme un automate, il va à son travail. Il ne pense à rien. Refaire le même trajet, l'usine, faire la queue à la pointeuse et aller à sa place.
Rue 25.
Rien n'a changé. Personne ne lui parle comme d'habitude. Il faut travailler. Joseph va à lui. Lui dit.
Tu vas bonjour, mieux
bonsoir. Oui, ah, dépêche-toi.
J'ai trouvé quelqu'un pour ta réparation.
C'est gentil.
Alors tu vas me donner l'adresse.
Alors c'est...
Dépaysé. Oui, c'est normal, après une longue absence. Maintenant, ça va aller. Tiens, fais-moi ça.
Pierre se dit qu'il doit savoir. Et la vie reprend, vie monotone comme avant. Pierre étouffe. Mais on ne lui parle plus de sa fugue. On lui fait comprendre. On lui dit toujours,
il ne nous aime pas.
Il ne nous aime pas. Il n'a plus le droit de sortir, à part pour le travail, pas d'argent de poche. Sa mère ne fait que de lui dire,
tu as été mis sous notre protection.
Pierre ne dit rien. Le samedi, elle le lave comme d'habitude et lui dit
« Tu fais des bêtises, mais tu ne sais même pas te laver seul. »
Il a envie de lui dire « C'est toi qui ne veux pas. »
« Tu étais bien capable, c'est d'aller à Paris. » Il lui dit
« Eh oui, tout seul. C'est la preuve que je ne suis pas si idiot que ça. » Elle l'a giflé et lui dit
Si tu as été capable d'aller à Paris, tu es capable de travailler. Feignant.
Il se dit, on est toujours des feignants avec elle. Toujours.
Alors, pour qu'on lui foute la paix, travaille, travaille.
En demande et redemande. Il ne veut plus entendre dire qu'il est feignant et qu'il a dépensé de l'argent. Il se dit que son billet a été remboursé depuis longtemps. Et même ses dépenses. Il passe son CRP écrit. Il y est bien arrivé. Assigné par Panorama, l'émission de François Chalais, il voit avec surprise et peur, parce que ses parents sont à côté de lui et qu'il croit qu'ils savent. Et là, il voit que François Chalais interviewe son ami. Il en est tout retourné, ému. Apprend qu'il est à Cannes, parce que le film qui représente la France est en compétition et que c'est le sien. Pierre se dit avec tristesse que tandis que lui était à Paris, son ami était à Cannes. Ça lui fait mal. Et son amour revient encore plus fortement. Son amertume aussi. Il ne lit plus de livres. Mais recommence à voir les articles sur le journal et à prendre les articles où on parle de son ami. Les articles qu'il a gardés jusqu'à Paris, qu'il a ramenés, parce que la police ne les avait pas pris, il recommence à les voir. Pas de chance, encore une fois, son dernier film est interdit au moins de 18 ans. Et puis, il n'a pas d'argent. Sa vie est très triste. Il veut absolument
prendre contact avec ce jeune garçon, ce jeune homme. Mais comment? Pour le CRP, qui se passe vers le parc de la Tête d'Or et qui dure toute la journée, il décide, avant d'entrer chez lui, d'écrire une lettre à son ami. Il enverra à la télévision pour qu'elle la fasse suivre. Sa mère lui a donné un peu d'argent pour le car. Il achètera avec du papier à lettres, une enveloppe et un timbre. Après ses examens, il va au parc de la Tête d'Or pour être tranquille. Il va dans une petite grotte pour écrire en paix et écrire comme il peut. Il lui dit son affection, son désir de le voir et de faire des films. Sa lettre, c'est du délire. C'est un appel au secours, comme un prisonnier qui jette une bouteille à la mer. Une fois que sa lettre est faite, il la poste. Il se sent mieux. Il a fait un geste pour sortir de cette nuit. C'est insensé. Cette lettre écrite n'importe comment, parce qu'il ne sait pas écrire sans faire de faute, il a écrit des choses incompréhensibles pour les autres. Bien sûr, la lettre n'aura aucune réponse. C'est sûrement mieux. Parce qu'il y en avait une, ce serait été ses parents qui auraient reçu la lettre et lu. Là, la honte. Ils auraient su son secret. Lui aimer quelqu'un, c'est un fou. Et il a écrit sans le dire à la famille. De quel droit il aurait fait ça? Pierre a réussi son CRP. Il n'en a rien à foutre de son CRP. Lui veut faire des films et rien d'autre. Il mène une vie de plus en plus monotone. On ne lui parle pas. C'est un pestiféré. On le surveille. C'est quelqu'un qui n'est pas franc. Il est fourbe. Attention à l'argent. Sa mère dit toujours à son père. Tu te rends compte, on est obligé de tout cacher. Ne pas faire confiance à son fils, c'est terrible. Il lui répond.
Je te l'ai toujours dit, qu'il n'est pas franc. Il ne nous aime pas.
Pierre a envie de leur dire, de leur crier que c'est faux. Mais à quoi bon? Ils ne le croiraient pas. Il se sent malheureux, vit une période très sombre. Maintenant, il se rend compte qu'il a raté son ami, que peut-être il ne le reverrait jamais. Et il va continuer à vivre comme ça, dans ce trou noir. Il n'a pas le droit de sortir, pas d'argent. Il passe son temps à travailler le plus possible. On n'a pas confiance en lui parce que il a fait une fugue et on croit qu'il va recommencer. ne parle pas, n'a goût à rien. La télévision l'ennuie. Alors que ses parents la regardent, lui va s'allonger sur son lit en ayant envie de mourir. Il aimerait mourir. Oui, mourir. Il ne regarde plus les photos de son ami. Un ami que l'on dirait maintenant virtuel, si ce mot avait été à la mode à cette époque. La nuit, il va à la salle d'eau prendre un surmontil pour mourir. Maigri, ne mange plus. Ses parents lui en veulent et ne font que le surveiller. À son travail, il n'a personne à qui parler. Les gens sont bêtes et même méchants. Il n'y a rien à leur dire, rien de commun avec eux. Il s'est aperçu, c'est que certains apprentis, surtout les garçons, sont ennuyés par les adultes, hommes et femmes. Même ceux qui sont des délégués syndicaux se comportent mal avec eux. Dans des coins, il a assisté par hasard à des scènes qui ressemblaient beaucoup à des viols faits par des hommes, même des délégués syndicaux, ceux qui ont pour but de défendre les travailleurs. Ces viols vont parfois très loin. On attache même les garçons de 14 à 15 ans à terre, on le déshabille, ils font ça à plusieurs. Cela dégoûte Pierre et se demande pourquoi on fait ça. Un jeune un jour lui a demandé de le détacher. Qu'est-ce qu'il a fait? Ces scènes lui rappellent ce qu'il a subi à l'école. Il ne savait pas que les adultes pouvaient se comporter comme ça. Pierre, ça le travaille et lui fait mal. Il comprend ce qu'éprouvent ces jeunes gens, mais il n'ose pas leur parler par timidité et peur. Il a peur de tout. Peur que ses moindres gestes dévoilent ce qu'il ressent pour son ami. Il a peur que si les autres le savent, qu'ils souillent, qu'ils violent son amitié. Il est dégoûté par les autres. En plus de ces viols, les gens parlent beaucoup de sexe et sont curieux de l'intimité des autres. Pierre a honte lorsqu'on lui parle de sexe. Il se lève et dit: ça ne m'intéresse pas. Les autres rient. Pierre se dit, puisqu'ils sont comme ça, ils veulent que les autres le soient aussi. Ça les rassure que les autres soient aussi dégoûtants qu'eux. Pierre travaille beaucoup. Il n'y a que ça pour s'en livrer. Ne lit plus, n'a plus envie de quoi que ce soit, sauf de mourir. À la radio, l'on passe à l'assemblement la chanson du film où son ami joue. Il est content parce qu'il se dit que ça fait de la publicité pour son film. Pierre aimerait être malade, vraiment malade. Alors, il croit qu'il a des choses, qu'il voit noir, que quelque chose le force à boiter. Il a souvent des maux de tête. Lorsqu'il y a,
que lorsqu'il les a, il ne dit rien. Il va travailler. Et des fois, c'est dur parce qu'il a des gros besoins, des besoins terribles de vomir. Il semble à Pierre que tout est fini, n'a goût à rien, passe des heures allongées sur son lit. Les jours passent. Un jour, en feuilletant un match qui traîne et qui était à sa mère, et là, voit avec surprise un article sur son ami. Oui, il est écrit qu'il est au lycée Henri IV, bon élève, et que son père est professeur. Pierre se dit que c'est maintenant où il est, où il peut le trouver. Il peut le voir au lycée.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Passion intérieure, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.